Bien, j'aimerais vous lire un texte dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et à partir du verset 14. Il est dit: « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Et dimanche dernier, je vous ai déjà entretenu de l'écriture à partir de ce magnifique psaume 119. J'ai choisi de revenir sur ce thème de l'écriture, d'en faire un deuxième volet, en évoquant avec vous un certain nombre de points qui me semblent essentiels pour fonder notre foi dans cette parole que Dieu nous a donnée. Tout d'abord, je voudrais faire une première affirmation, à savoir que l'écriture est la seule source et la seule norme pour notre foi. Dans le jardin d'Éden, Dieu s'est adressé directement de vive voix à Adam et Ève. Vous connaissez les textes. Dès le premier chapitre, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa, il les bénit et il leur dit, il leur parla. Et un peu plus tard, il est dit que Dieu donna ce commandement à l'homme: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Et là encore, le texte dit d'une manière claire que Dieu donna ce commandement à l'homme. Juste après la chute, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir, nous dit Genèse 3, le verset 8. Alors Dieu appela, il appela l'homme et leur dit, il leur parla de vive voix avec ce mot: où es-tu? Et l'homme a répondu: j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin d'Éden et j'ai eu peur. C'est alors que pour la première fois, Dieu a annoncé à l'humanité perdue le salut par la foi en un descendant de la femme, descendant qui détruirait les œuvres du diable, celui qui va écraser la tête du serpent. Après Éden, Dieu a continué de s'adresser de vive voix aux hommes. À Abraham, à Jacob, nous pourrions multiplier les exemples. Ces enseignements, ces paroles de Dieu ont été transmises oralement. Et ces paroles, ces enseignements de Dieu, devinrent pour le peuple la source, la norme de la foi et des pratiques des vrais croyants. Nous arrivons ainsi à l'époque de Moïse. Et Dieu, à ce moment-là, va donner un ordre très fort, celui de consigner par écrit ce qu'il est en train de dire. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses dans le livre. » Exode 17, verset 14, et plusieurs autres textes. Et le livre de l'Exode de nous préciser, « Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. » Dès lors, dès que nous avons eu le texte écrit, je dirais que tous les vrais croyants, mais j'aimerais aussi ajouter tous les hommes, sont liés par ces textes écrits sans qu'il soit permis d'y ajouter ou d'en retrancher quoi que ce soit. Et si dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 2, nous lisons ceci, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les donne. » Un peu plus tard, parlons à Josué au chapitre 23 et au verset 6. Nous entendons cette parole. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite et ni à gauche. Et quelques siècles déjà avant la venue du Seigneur Jésus, les Écritures formaient un ensemble reconnu que l'on appelle le canon de l'Ancien Testament. Canon fixé par Dieu seul et que Dieu seul pouvait se permettre d'élargir. Après ou avec la venue de Jésus, Dieu ajouta aux écrits des prophètes ceux des apôtres ou de quelques proches pour former un ensemble, l'Écriture sainte, fondement inébranlable sur lequel s'est édifiée l'Église. Parmi d'autres textes et qui affirment cela, Paul, écrivant aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20, nous dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et il entendait par là les textes bibliques et les écrits qui sont devant nous. Or, les apôtres ont pris soin, n'est-ce pas, de consigner par écrit tous les desseins de Dieu. Écrivant aux chrétiens de Philippe, au chapitre 3 et au verset 1er, Paul évoque la parole et il dit de cette parole qui est dite, qui est annoncée et qui est respectée dans ce qu'elle est, et c'est pour vous une sécurité. Les apôtres vont insister sur le fait que quiconque croit doit se soumettre à l'enseignement écrit, à l'enseignement des apôtres, seule source, seule norme pour la foi et les pratiques des chrétiens. Entre autres paroles que nous trouvons dans les textes bibliques, ces mots vigoureux de l'apôtre Paul, et qui écrit aux Corinthiens au chapitre 14, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Il nous faut reconnaître que entre l'âme et la parole, entre l'homme et la parole écrite, toutes sortes de choses essaient de se substituer et de s'interposer. Et je voudrais très rapidement évoquer avec vous quatre points, quatre choses et qui essaient de s'interposer entre le croyant et la parole. Il y a tout d'abord la raison humaine. Cette raison est dans l'impossibilité de nous faire vraiment connaître Dieu. La raison humaine est limitée et la Bible nous dit corrompue. La raison humaine ne permet pas à l'homme de découvrir le précieux message de l'Évangile. Bien au contraire, elle amène vers des raisonnements trompeurs. Un exemple. L'Écriture est là pour convaincre l'homme de péché, de justice, de jugement. Et la raison humaine amène souvent l'homme sur le chemin de « tu n'es pas coupable, ce n'est pas ta faute ». C'est celle des parents, de la société, que sais-je. Certes, on peut et on doit faire usage de la raison, mais dans la mesure où celle-ci se laisse guider par la parole. La deuxième chose qui essaie de se substituer entre l'homme, le croyant et la parole, c'est l'expérience. L'expérience ne doit jamais servir de norme pour notre foi. Ce n'est pas le vécu de l'un ou de l'autre et qui doit nous enseigner le chemin à suivre, qui doit nous enseigner ce que nous avons à croire ou à pratiquer, mais la seule parole de Dieu. Luther disait très justement, le Saint-Esprit n'opère jamais avant ou sans la parole. La troisième chose qui essaie de s'interposer entre l'homme et la parole, c'est l'Église. Alors vous allez me dire l'Église? Eh bien oui, l'Église même peut établir des pratiques, des règles, des croyances, et que ces règles et ces pratiques ne soient que des commandements d'hommes qui se substituent à la parole. L'Église elle-même peut se trouver dans son chemin piégé par sa manière de croire et par sa manière même de chanter. Or, permettez-moi un tout petit détour, parce que je pense que nous-mêmes, nous sommes concernés par la chose. Vous savez, aujourd'hui, on chante une multitude de petits chœurs, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette multitude de petits chœurs, on est à proclamer constamment la puissance de Dieu, la victoire de Dieu, le Dieu puissant et grand. Une fois, vous regarderez, vous prendrez le livre de cantiques pour regarder tous les livres, tous les cantiques que l'on est en train de chanter. et vous serez étonné. Alors, certains sont en train de dire, mais oui, on proclame la puissance, la victoire, la grandeur de Dieu, un peu comme beaucoup autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui regardent le ciel et proclament la grandeur du Créateur, la puissance du Créateur. Mais la croix, où est-elle? Ah, écoutez un petit peu les chants du dimanche matin et découvrez que la croix est souvent déplacée, mise lentement de côté pour proclamer autre chose que ce qui est la véritable victoire, à savoir la victoire du Christ sur la croix, à savoir la victoire sur la mort et la résurrection. Oui, ceci est un problème. Encore un mot, un quatrième exemple, pour vous dire que entre l'homme et la parole, il risque d'y avoir les révélations nouvelles ou les révélations particulières. Aujourd'hui, on nous explique de plus en plus que pour corriger ou compléter l'Écriture, pour vivre une vie dynamique avec Dieu, il faudrait ceci ou cela additionner à notre vie. Et je voudrais vous dire là encore, attention les amis, à tout ce qui vient s'interposer entre nous et l'Écriture, pour que ce ne soit plus l'Écriture qui soit la norme, mais pour que nos pensées, pour que nos raisonnements deviennent nos pratiques habituelles. C'est Luther qui écrivait avec pertinence que dans l'Ancien Testament étaient appelés enfants des prophètes ceux qui n'enseignaient rien, qui n'enseignaient rien qui provient d'eux-mêmes, ni rien de nouveau, comme le faisaient les prophètes. Mais ils se contentaient d'affirmer ce qu'ils avaient reçu d'eux et d'inviter le peuple de Dieu de son époque à devenir enfant des prophètes. Aujourd'hui, je crois qu'il nous faut être interpellés par ces mots et se demander si nous sommes enfants des prophètes, enfants des apôtres, basés sur le seul fondement solide, celui des prophètes et des apôtres. Alors pour nous, l'Écriture se distingue de tous les autres livres qui existent dans le monde. Pour nous, l'Écriture est parole de Dieu. On a dit que les écrits de Platon sont la parole de Platon, que les écrits de Spurgeon sont la parole de Spurgeon. On pourrait rajouter, pour être moderne, que ceux de Monsieur Kuhn, c'est la parole de Monsieur Kuhn. Et de même, les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, rédigés par les apôtres et les prophètes, sous l'inspiration divine, sont du commencement à la fin la parole de Dieu lui-même. Les chrétiens croient que non seulement la Bible contient la parole de Dieu, mais qu'elle l'est vraiment. Que l'Écriture est donc un livre unique, qu'elle est l'authentique parole inspirée par Dieu lui-même. Une parole vraie, une parole qui ne se trompe jamais, une parole qui ne trompe jamais. les livres écrits par les auteurs chrétiens contiennent la parole de Dieu. Ils sont faillibles, mais pour nous, la Bible est et reste cette parole infaillible de Dieu. Alors, il y a une multitude de textes dans le Nouveau Testament qui sont là à affirmer que ces textes sont parole de Dieu. L'Écriture ne se contente pas de nous affirmer qu'elle est parole de Dieu. Elle nous explique aussi de quelle manière Dieu a donné sa parole aux hommes. La parole enseigne clairement l'inspiration divine. Ainsi, dans le texte de ce matin de 2 Timothée, l'apôtre Paul évoque les écrits sacrés et souligne avec force certaines choses à son fils spirituel, à Timothée. Il lui dit « Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Ce qui signifie qu'elle a son origine en Dieu. Elle n'a pas son origine en l'homme, mais elle a son origine en Dieu. Cela signifie que tous les écrits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été communiqués à certains hommes auxquels Dieu demandait d'être les rédacteurs officiels de son Saint-Livre. Des hommes avec une histoire, des hommes avec une personnalité qui marque le texte, mais qui deviennent entre les mains du Seigneur des instruments qu'il utilise pour nous parler. La Bible nous dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'un texte, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Puisque ces hommes ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit, il est évident qu'ils n'ont pas écrit des paroles venant d'eux-mêmes, mais ils ont écrit celles que Dieu lui-même leur a données. Aucun livre n'a été rédigé seulement par le désir d'un homme, mais par la volonté du Seigneur. C'est ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 2:13 lorsqu'il dit « Nous parlons. Nous parlons des choses que Dieu nous a données, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. » L'inspiration n'est pas seulement une inspiration des personnes ou des pensées, mais je le crois, c'est une inspiration verbale, c'est-à-dire la communication aux auteurs sacrés et des mots eux-mêmes. Je crois que dans tous les originaux, que dans les textes originaux, en chaque partie, en chaque affirmation, et même dans la moindre lettre, c'est la parole inspirée de Dieu. Jésus et les apôtres se réfèrent parfois à un seul mot, voire à une seule lettre, pour prouver des vérités et divines. Ils citent l'Ancien Testament et affirment qu'il y a ce mot ou cette lettre parce qu'il y a une signification précise ou à ce mot ou à cette lettre. Ainsi, en Galates 3:16, l'apôtre Paul évoque le livre de la Genèse au chapitre 17 et verset 7 et souligne que le texte biblique dans ce verset-là utilise le mot « postérité » au singulier et non au pluriel, parce que là, il est question du Christ. Ceci est en accord avec la pensée de Jésus et qui interdit d'ajouter ou de supprimer la moindre lettre de la loi, le moindre iota au texte biblique. Comme l'affirme l'apôtre Paul à Timothée, l'inspiration est donc la réalité de toute l'Écriture. L'apôtre Paul se trouvait un jour devant le gouverneur Félix. Il l'a regardé en face dans Actes 24, 14 et lui a dit « Je crois tout ce qui est écrit est dans la loi et dans les prophètes. » Aujourd'hui, sommes-nous capables de regarder en face ce qui nous entoure et de confesser aujourd'hui avec force « Oui, je crois tout ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, du premier au dernier livre, du premier au dernier mot, de la première à la dernière lettre » de ce texte. En conclusion, ou en dernier point, je voudrais dire quelques mots ou redire quelques mots sur l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu possède en elle-même le pouvoir d'opérer dans l'homme, en toi, en moi, dans ton cœur et dans mon cœur. Je crois que l'Écriture enseigne qu'elle a le pouvoir d'engendrer la foi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Écrivant aux Romains, Paul disait ceci, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est un bâton de dynamite pour le salut de quiconque croit. » Et dans le texte, il compare bien la parole à un bâton de dynamite à une puissance extraordinaire et qui donne vie. L'apôtre Pierre confirme, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, je crois que cette parole est efficace et qu'elle engendre la foi. Les textes bibliques vont plus loin et affirment que cette parole fortifie et préserve la foi. Écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul disait « Elle est véritablement la parole qui agit en vous qui croyez. » La parole qui agit en vous qui croyez. Et Jésus lui-même, s'adressant à Dieu dans une prière, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, disait « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Oui, la parole a un pouvoir de sanctification, d'action dans notre vie pour nous faire grandir, pour nous aider à aller de l'avant. La parole de Dieu lues et entendues amènent des certitudes. Certitude du salut, certitude d'être aimé, et bien d'autres certitudes encore. Et le texte biblique de dire, elle suscite même une nouvelle intelligence. Je crois enfin que cette parole est l'arbitre institué par Dieu. Qu'elle est l'arbitre institué par Dieu pour séparer la vérité de l'erreur, pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal, pour m'amener sur le chemin de la vie. Ce n'est pas la raison humaine qui m'amène sur le chemin de la vérité, de ce qui est juste, de ce qui est sage, mais c'est cet arbitre-là qui me montre la règle juste et qui me montre ce que je dois croire et pratiquer. Cette parole est citée dans les controverses par le Seigneur Jésus comme étant le seul critère de vérité, comme étant ce qui doit être vécu pour vivre à l'honneur de Dieu. Je le sais, vous le savez, aucun autre livre ne possède une telle efficacité. Efficacité inséparable, il est vrai, du Saint-Esprit qui ouvre et illumine le cœur de l'homme. Aucun livre ne possède une telle efficacité. Et pourtant l'homme que je suis peut négliger la parole, voire s'opposer aux effets de la parole. Alors, une dernière question. Face à cette parole de Dieu, inspirée par le Seigneur, donnée avec amour à chacun d'entre nous, qu'en ferez-vous? Qu'en faites-vous? Est-elle le livre aimé et lu, le livre étudié et obéi, ou cette parole est-elle simplement sur votre chevet ou dans votre bibliothèque? Je vous invite à ce que cette année tout entière, nous soyons, comme le disait le psalmiste, des hommes et des femmes qui servent cette parole divine, cette parole sacrée dans nos cœurs pour la croire et la vivre. Amen.